Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Le terrain le sportif.
Il n'y a personne de safe ici dans la chambre. Parce que c'est pas un camp de vacances ici.
Quand tu viens à Montréal jouer devant 700, on te dit que tu viens jouer à l'Université de Montréal. You're gonna compete with the best against the best tous les jours.
Gagner beaucoup de trophées. Merci à Ibra Kadabra.
Moi, pour moi, c'est le ballon d'or du peuple. Voilà.
So I'm not one of the bottle. I think I'm a special one.
I can't really hear what Jeremy says because I got my two Stanley Cup rings plug in my ear.
Le terrain le sportif. Terrain. Bonjour, chers auditeurs, chers auditrices. Bienvenue au terrain sportif. Tous les lundis de Sherbrooke à Montréal, on commence bien sûr le lundi matin de 10h30 à midi sur les ondes de CSM, le 89,3 FM, la plus grande radio universitaire francophone au monde, mesdames et messieurs. Également en rediffusion le lundi soir du côté de l'Estrie et dans la ville de Sherbrooke et les environs à 20h sur les ondes de CFAC, le 89,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Wissam Benson en onde avec vous pour la prochaine heure et demie. Cette semaine, on a beaucoup de contenu. C'était le match de le début de saison du côté de l'Alliance de Montréal à l'Auditorium de Verdun. Il y a eu un match hier et il y a eu un match également jeudi à 20h. On va parler de ça. On va commencer l'émission par ça, l'Alliance de Montréal, qui est notre équipe de basketball locale ici. Là, si vous ne le saviez pas, eh bien oui, Montréal a une équipe de basketball. Elle se nomme l'Alliance de Montréal et elle fait partie de la CBL, la Canadian Elite Basketball League, ou la LECB, la Ligue élite canadienne de basketball au Québec, à Montréal, la seule équipe québécoise, bien sûr, l'Alliance de Montréal. Également, on parle CF Montréal comme à chaque semaine, puisque le CF Montréal a joué deux fois, un match mercredi soir en milieu de semaine du côté du Stade Saputo contre DC United et samedi soir dernier du côté de Philadelphie contre le Philadelphia Union. Et puis, on va en parler. Est-ce que les résultats ont été bons? Est-ce qu'ils ont été mitigés? Tout ce que je peux vous dire à l'heure actuelle avant qu'on en parle, c'est que le CF Montréal n'a pas perdu lors des deux matchs. Ça a été quand même des bons résultats. On va revenir là-dessus un peu plus tard. Également, on parle de l'équipe nationale canadienne féminine de soccer, puisqu'il y avait match samedi 2h, samedi dernier, le 1er juin, du côté du Stade Saputo, Canada-Mexique. C'était l'affiche. On sait, là, les équipes nationales canadiennes ne viennent pas très souvent à Montréal. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Elles vont souvent beaucoup plus à Toronto et Vancouver que Montréal. Mais bon, elles étaient là pour un match contre le Mexique. Programme double d'ailleurs, puisqu'il y aura un autre match là après-demain du côté de Toronto contre cette même équipe mexicaine. Donc, on va parler de ça. Également, quelques petites actualités internationales. Là, on peut déjà vous mentionner que le Real Madrid a remporté sa 15e Ligue des champions avec deux buts, un but de Carvajal et un but de Vinicius Junior contre un Borussia Dortmund qui a quand même dominé là, la première mi-temps. Et ensuite de ça, bien, on va avoir notre musique habituelle, là, nos nouveautés francophones ou pas, parce que cette semaine, on va avoir des chansons francophones qui ne sont pas des nouveautés francophones, mais on va quand même les présenter. On a du Miroir, on a du N. Now, on a du Lucille El Marco, Emma, Fire and Smoke, Canelo, Debbie Tebbs, Eric Copland et Mara Tremblay. Tout ça pour vous à cette émission, ici, le terrain sportif sur les ondes de CSM et de CFAC. On va commencer l'émission avec l'Alliance de Montréal, puisque vous le savez, l'Alliance jouait son premier match à domicile. Ça se passait le 30 mai là, à l'Auditorium de Verdun. D'ailleurs, un auditorium qui n'était pas plein pour la première occasion de la saison. Il faut dire aussi que c'était un jeudi soir et qu'il était 20h. Là. Le match commençait à 20h, donc c'était un peu tard pour un match là en semaine, puisqu'on sait même les équipes comme les Canadiens, le CF et les Alouettes, généralement, ils ne jouent pas à 20h. Donc c'était la première, pour la première de l'Alliance, disons que c'était pas plein, mais je suis persuadé que ça va être encore plus plein dans les prochaines semaines. Puis on va également parler du match de dimanche. Tantôt, on commence par le match de jeudi. Défaite de 81 à 77 côté Auditorium de Verdun pour les Edmonton Stingers. Pourtant, l'Alliance de Montréal a marqué 25 points contre 18 au premier quart. Deuxième quart, 24-25. Mais c'est au troisième quart là, où est-ce que ça l'a vraiment fessé, les troisième et quatrième quarts, avec 18 points à 15 pour les Stingers. Et surtout, là, le quatrième quart avec 20 points à 13 pour ces mêmes Stingers de Edmonton. Puis il faut le rappeler, dans la Ligue élite canadienne de basketball, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que c'est pas l'horloge qui descend jusqu'à zéro, puis après ça, c'est l'équipe qui a le plus de points qui gagne. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le premier arrêt de jeu à partir de 4 minutes au quatrième quart, en fait, on prend l'équipe qui a le meilleur score. Donc, en l'occurrence, je crois que c'était l'Alliance de Montréal avec 71 points, et on rajoute plus 9. Donc 71 plus 9, ça fait 80. On arrête l'horloge et la première équipe qui atteint le chiffre magique de 80 remporte le match. C'est comme ça que les Stingers d'Edmonton ont pu remporter ce match-là, parce que sinon, si on allait probablement juste jouer l'horloge et jouer le cadran, ça aurait été l'Alliance de Montréal qui aurait emporté ce premier match-là. Donc c'est une troisième défaite consécutive là, avant le match de dimanche qui se jouait hier. Et donc, pour l'Alliance de Montréal, on le sait, ils sont déjà qualifiés pour la demi-finale du championnat canadien, là, le Weekend Championship, puisqu'il va se passer du côté de Montréal. Donc, il y a déjà un biais pour l'équipe québécoise. Mais ça reste que quand même, il y a des fans à combler. C'est un sport, puis c'est une équipe qui devient de plus en plus populaire. Et donc, les joueurs de l'Alliance veulent aussi briller et non pas rentrer en séries éliminatoires par la petite porte là au mois de juillet prochain. Juillet ou août, en fait, là, on va. Le mois d'août. Le Weekend Championship, c'est dans le courant du mois d'août. Je crois que c'est dans les dates, là, environ entre le 10 et le 12 août. Environ, là, grosso modo, c'est à peu près ça. Parmi les joueurs qui ont brillé avec l'Alliance de Montréal, eh bien, en termes de points, ben, Chris Smith, ça a été 15 points. Ahmed Hill, 12. Alain Louis, le capitaine de l'équipe, maintenant, 13 points. Elijah Ifigi, 3 points, Maxime Boursicot 8 et également à compter là Jaden Edwards avec 19, Shaquille Dorson avec 6 et Guillaume Payen-Boucard avec 1. Côté Edmonton Stingers, si je vous disais qu'il y a un joueur qui a marqué 30 points, parce qu'il faut le rappeler aussi, les quarts dans la CBL, là, c'est 10 minutes. Donc, c'est moins que dans la NBA que dans les autres ligues de basketball. Et donc, 30 points pour Davian Warren. Ce qui est quand même exceptionnel, là. 30 points en CBL, ça l'arrive de temps en temps, mais dans un match comme ça, surtout que lui, comme le joueur, notre ami Alain Louis, l'a mentionné à la conférence de presse, ça n'a pas été le joueur le plus flashy, mais il a quand même terminé la soirée là, avec 30 points pour M. Darren Warren, qui est évidemment là, américain. Mis à part lui, ben Nick Hornsby a eu 8 points, Elijah Miller 2 points, Brody Clark 4, Jacob Evans-Lee 9, Arika Peter McNally, le capitaine 14 et Michael Nuga avec 6 points. Et donc pour l'équipe coachée par Ryan Thorne à l'heure actuelle, parce qu'on le sait, notre entraîneur Derek Alston Sr. est au Mexique. Puisqu'il entraîne l'équipe mexicaine de Los Mochis et ils sont en séries éliminatoires. Et donc, ce sera l'intérim, c'est Ryan Thorne. Ryan Thorne qui est l'entraîneur là, de l'équipe de McGill au basketball universitaire. Donc, une défaite pour commencer la saison à domicile. C'était la troisième défaite de suite pour l'Alliance de Montréal. On a beaucoup d'entrevues là, d'après-match qu'on va vous partager. Là, on en a quatre en fait. On a le coach Ryan Thorne qui a commencé le bal là, en entrevue d'après-match. On va l'entendre. On va également entendre Ahmed Hill et on va entendre également le capitaine Alain Louis qui avait beaucoup de choses à dire.
Donc Alain, Wissam, je te laisse aller.
Bonsoir Alain, merci pour votre temps. Comment est-ce que vous vous sentez ce soir après la défaite contre Edmonton?
C'est une bonne équipe, c'était un match, je dirais même pas que c'était un match difficile, c'est un match que je trouve encore une fois comme Saskatchewan, on avait le contrôle, mais pour une certaine raison au troisième quart, on arrête de juste continuer à pousser. Puis je pense que c'est un problème qu'on doit vraiment arranger, réparer. Je pense que ça commence en pratique, ça.
Davian Warren a eu 30 points ce soir. Est-ce qu'il faisait partie du plan de match pour peut-être essayer de le stopper un peu, ou vous n'en avez pas trop parlé?
On a parlé de lui extrêmement. Je viens de réaliser qu'il a eu 30. Je croyais qu'il avait eu 20. Donc, je pense qu'on va en entendre beaucoup parler dans la prochaine pratique, parce que le coach, il nous avait vraiment averti. Il nous avait dit que c'est pas un gars qui va scorer de manière flashy, mais il score de manière tellement différente que tu réalises pas qu'il a 30 points. Je vous promets, il n'y a personne dans le stade qui savait que ce gars-là avait 30 points. Donc c'est top de jouer contre des gars qui sont capables de faire beaucoup de trucs, ils courent en transition, ils shootent des 3 points, ils se rendent bien au rim. Donc ouais, c'est difficile de jouer contre des gars comme ça.
Hey coach, thank you for your time. What are your thoughts on tonight's game?
My opinion is, you know, it's been a tough road trip, and then coming back home, and I think we played some of the top teams in the league. I think Edmonton's right up there, probably one of the best teams in the league. So, you know, I thought we played with them for a while. I think the little things that we're not doing well with guys now, you know, introduced to the team, you see the little mistakes. You know, we had 20 turnovers today, right? And it's a 4-point game. So for me, I think we got the pieces. We just don't have the connectivity yet that's going to allow us to be the team we want to be at the end.
Donc, c'était coach Ryan Thorne qui a parlé de la prestation de son équipe ce soir en disant justement qu'ils avaient eu trop de turnovers, donc en bon français, trop de revirements à l'auditorium de Verdun contre les Edmonton Stingers. Et donc, il espère quand même que ça se passe mieux dans les prochains matchs. Mais il a également mentionné là, en anglais que les équipes contre qui l'Alliance a joué, ce sont des bonnes équipes qui sont parmi les meilleures équipes de la Ligue. Et on peut certainement croire que c'est le cas là, avec les Stingers d'Edmonton, avec le joueur Warren qui a eu plus de 30 points. Et quant à Alain Louis, ben lui, c'est assez clair. Là, il n'était pas satisfait de la performance de l'équipe au troisième quart, puisqu'il dit que ça s'est passé exactement de la même façon contre la Saskatchewan. Et il a eu des mots très... une façon de respecter M. Warren en disant qu'il a marqué 30 points, mais que personne dans le stade avait pu réaliser qu'il avait marqué 30 points, en disant que c'est un très bon joueur qui peut marquer de façon différente. Et donc, on aimerait bien avoir du côté de l'Alliance de Montréal à l'Auditorium de Verdun un Warren. Et donc, voilà, c'est ce qui met fin à cette première partie pour l'Alliance de Montréal. Après ça, on va parler CF et on viendra à la fin là, pour donner des détails sur le dernier match, puisque ce premier petit segment est un peu pré-enregistré. On s'en va en musique avec du Brutal Disco, J'arrive pas à croire et Ken Lo, et on revient après ceci. De retour au terrain sportif sur les ondes de CFAC et CSM avec votre animateur Wissam Bensta. Donc, on vient d'entendre deux chansons ici là, sur les ondes FM. C'était tout d'abord la chanson Brutal Disco feat DJ Killer Jewel de Debbie Tebbs, artiste bien entendu québécoise et francophone. Et ensuite, ça a été Bobby Strong, Anthony Naples remix de Eric Copland, une chanson là, un peu d'instrumental. Non, une chanson non francophone, parce que vous le savez, là, ici, à CSM et à CFAC, on est obligé de respecter les quotas de chansons francophones. Et donc, ça prend. J'ai droit à une chanson qui est non francophone par semaine. Et cette semaine, eh bien, c'est notre ami Eric Copland qui remporte l'honneur de la chanson non francophone ici sur les zones de CFAC et CSM. Maintenant, on va y aller avec le CF Montréal, notre équipe locale de soccer, le club de foot de Montréal, bien entendu, là, qui joue au stade Saputo dans l'est de Montréal, juste à côté du stade olympique. Et bien, cette semaine, ils étaient en action avec deux matchs. Le dernier match là, avant cette semaine, c'était le 25 mai. Et ça s'était soldé par un match nul de 0-0 contre Nashville SC. Nashville, on le sait, là, qui ne sont pas la meilleure équipe de tous les temps au soccer. Là, ces temps-ci, ça ne va pas très bien pour eux. D'ailleurs, ils ont joué avant-hier, puis ils ont perdu à domicile contre la Nouvelle-Angleterre, 2-1. Donc Nashville, cette saison, ils gagnent quand ils ne sont pas censés gagner, puis ils perdent quand ils sont censés gagner. C'est un peu ça, l'histoire cette saison. Ils ont battu Toronto, ils ont battu Cincinnati à Cincinnati, mais ils perdent contre Montréal. Ils font match nul contre Montréal avec aucun but marqué, puis ils perdent contre une des pires équipes à domicile, c'est-à-dire la Nouvelle-Angleterre à la maison, du côté du Tennessee, 2-1. Et donc, pour le CF Montréal, on le sait, ça se passait plutôt mal. La cerise sur le Sunday, ça a été la défaite à domicile contre une équipe de Canadian Premier League, Forge FC de Hamilton, défaite de 2-1, un mercredi soir au Stade Saputo avec pas trop de monde. Évidemment, il y avait beaucoup de pluie, il y a eu des orages également, donc c'était pas la meilleure météo pour attirer des gens un soir de semaine au Stade Saputo. Et après ça, eh bien la semaine dernière, 0-0 contre Nashville au Stade Saputo, et surtout en milieu de semaine, le mercredi dernier, le 29 mai, une victoire de 4-2. Du CF Montréal contre DC United à domicile. Et la dernière fois que le CF avait marqué 4 buts, c'était le 7 octobre 2023 contre Portland à domicile. Donc c'est une très belle performance là, pour le CF Montréal. Puis notamment dans ce match-là, eh bien, Ibrahim Sounoussi a marqué 2 fois. Et donc Sounoussi, qui, on le sait, n'est pas l'attaquant numéro 1 de choix de l'équipe du CF Montréal, il a quand même marqué 2 fois contre DC United, puisqu'on le sait. Et puis en plus, il était rentré en tant que remplaçant là, à la 19e minute pour remplacer Jules-Anthony Vilsain, l'attaquant qui s'est blessé en début de match. Dans ce match-là également, Christian Benteke a marqué 2 buts pour DC United. Christian Benteke, c'est un joueur là, quand même un des meilleurs de la Ligue, qui a joué à Aston Villa et qui a surtout joué à Liverpool. Mais c'est un joueur qui n'a pas beaucoup gagné de trophées dans sa carrière, mis à part un titre de champion là, avec son club de Belgique dans sa carrière lorsqu'il a débuté. Également dans ce match-là, Mathieu Choignard a marqué et Ariel Lasseter a marqué. On a des choses à dire sur ces deux joueurs-là, puisque Mathieu Choignard était absent pour accumulation de cartons jaunes. Donc, il a manqué le match contre Philadelphie à Philadelphie. Ça se passait samedi soir, là, il y a 2 jours. Et Ariel Lasseter, lui, il a joué le match du côté de Philadelphie, mais il a malheureusement reçu un carton rouge pour un coude au visage. Et donc, un carton rouge, il le savait. Et donc, il va manquer le prochain match pour le CF Montréal. Et à mentionner également que Ariel Lasseter a été sélectionné pour participer à la Copa América qui va se dérouler aux États-Unis. Donc c'est la coupe qui concerne les clubs d'Amérique du Sud avec 2 autres invités, notamment le Canada va en faire partie. Et donc il rejoindra les Ticos pour participer à cette merveilleuse compétition qui va se dérouler là dans plusieurs villes du côté des États-Unis. Donc le match contre DC United, ça a été un bon match. Le CF Montréal a bien joué. Les fans étaient contents. Les fans ont applaudi l'équipe au complet lors de la fin du match du coup de sifflet final. Et donc ça donnait une victoire pour le CF Montréal en MLS. La première là depuis le 13 avril contre Cincinnati, 2-1. Avec notamment, là, on l'a dit, le doublé de Ibrahim Sounoussi. Et ensuite de ça, eh bien, il y avait un déplacement du côté de Philadelphie, au Philadelphia Union, une très bonne équipe de la Ligue, qui joue d'ailleurs sans Carranza, leur attaquant vedette, qui est blessé. Et donc, ce match s'est terminé 2-2. Ça a été un match quand même assez étonnant, assez contre le script qu'on pensait qu'il allait se passer. Ibrahim Sounoussi marque à la première minute. C'était le 5e but. Le plus rapide de l'histoire du club en MLS. Ça s'est passé après 49 secondes. Une superbe frappe. C'était d'ailleurs son 4e but à ses 4 derniers matchs. Pas très pire quand même pour un attaquant qui n'est pas pressenti pour être l'attaquant numéro 1 derrière les Opoku, derrière les Martinez, derrière les Cocaro. Et donc, il marque son 4e but en 4 matchs. Ensuite de ça, tout se passe bien pour le CF Montréal, malgré quelques attaques là, de Philadelphie qui dominent quand même la première mi-temps avec des occasions, avec une possession de balle assez haute sur le terrain. 45e minute, je l'ai mentionné, Ariel Lasseter, carton rouge pour un coup de coude. C'était une faute qui n'avait pas lieu d'être et tout juste avant ça, Yankov à la 41e minute fait une faute assez stupide également, qui aurait pu être sanctionnée un peu plus sévèrement que par un carton jaune. Donc, 2 fautes totalement inutiles. Ce n'étaient pas des fautes qui empêchaient Philadelphie de marquer. C'était des fautes d'agressivité, tout simplement. Ensuite de ça, 2e mi-temps, Philadelphie joue à 11 contre 10. Daniel Gazdag sur penalty sur une faute de Sébastien Breza qui obtenait son premier départ là, depuis très longtemps. Ça faisait depuis le 17 septembre 2022 qu'il débutait en MLS. Donc ça fait longtemps, là. Ça fait presque 2 ans pour Breza, le gardien de but canadien du CF Montréal. Donc Daniel Gazdag, le joueur vedette de Philadelphie, le Hongrois, fait 1-1. Et 2 minutes après ça, Michael Oure fait 2-1 avec une belle action, là, une belle pénétration dans la surface de réparation qui élimine un joueur et qui place le ballon à terre parfaitement et Sébastien Preza n'y pouvait rien. Ensuite, 63e minute, une crampe au cerveau, une faute agressive totalement stupide du défenseur Jack Elliott, le numéro 3, qui donne un carton rouge à Philadelphia Union et donc le CF Montréal maintenant va être à 10 contre 10 et qui marque à la 66e minute le capitaine, le Québécois Samuel Piette, qui fait 2-2 pour le CF Montréal. Et donc, le CF Montréal quitte Philadelphie avec un très surprenant verdict nul de 2-2. Donc, le CF a marqué 6 buts en 2 matchs, mais a quand même accordé 4 buts en 2 matchs, ce qui est quand même beaucoup là, pour les standards de soccer international. 4 buts en 2 matchs, ce n'est pas les meilleures statistiques également. Déclaration d'après-match et petite note, le défenseur central Joel Waterman était absent pour des raisons personnelles. Juan, le latéral brésilien, a obtenu une 5e passe décisive cette saison. Donc, il fait son nid là, du côté du Stade Saputo, le latéral brésilien. Samuel Piette a joué son 175e match en carrière en MLS. Donc, félicitations à lui. Et comme je l'ai mentionné, là, le but de Sunusi Ibrahim à la 49e seconde, eh bien, c'était le 5e plus rapide de l'histoire du club en MLS. Déclaration d'après-match, je ne les ai pas en fichier audio, donc je vais vous les lire. Laurent Courtois, l'entraîneur du CF, dans la difficulté, nous avons tout de même réussi à aller chercher un petit extra. Les gars ont su trouver des ressources pour aller chercher ce qu'il fallait. J'ai bien aimé la résilience du groupe ce soir. Je pense que dans la gestion des émotions et du match, on a été un peu naïfs. Nous étions un peu fébriles. Là, il fait bien sûr référence au carton rouge. Donc, c'est un mélange de déception sur la gestion des émotions, mais de satisfaction aussi sur la résilience et le cœur ce soir. Et Sébastien Breza, le gardien de but du CF Montréal, le remplaçant de Jonathan Sirois, dit « C'est sûr qu'ils allaient faire quelque chose offensivement ce soir et on s'y attendait. Même en tant qu'équipe, on était un gros bloc bas. On a une équipe qui joue beaucoup au ballon, mais ce soir, on a dû resserrer et on a dû défendre énormément. On sort d'ici avec un point, un bon point, surtout dans une ambiance et un stade difficile. » Et quant à Samuel Piette, eh bien, il dit « Je suis super content pour ce but, mais plus pour l'équipe que pour moi. On a fait une bonne première mi-temps où on trouve des solutions, mais on prend ce rouge qui nous fait mal et on prend 2 buts. Gros crédit à Raïm pour l'effort sur le jeu qui a mené à leur carton rouge puisqu'il s'est blessé là, sévèrement, malheureusement, pour Raïm Edward, le latéral, qui était déjà blessé cette saison. Donc, il se reblesse, il devrait être absent, là, je crois, pour les prochains matchs. Et ensuite, on marque sur cette action-là qui nous remet dans le match 2-2. Et quand Samuel Piette dit « Je suis content sur ce but, pour ce but, mais plus pour l'équipe que pour moi », je le crois à 4000% parce que c'est quelqu'un de très généreux, de très gentil, qui salue tout le monde, là, les gardes de sécurité, les médias. Il prend son temps, c'est vraiment, comme on dit en bon québécois, un bon Jack Samuel Piette. Maintenant, qu'est-ce qui s'en vient pour le CF? Eh bien, le prochain match à domicile, c'est le 15 juin, donc c'est à peu près dans 2 semaines, contre Real Salt Lake, une rare visite pour l'équipe de l'Ouest de la MLS. Et ensuite de ça, le prochain match sera également à domicile le 19 juin, contre le New York Red Bulls. Et ensuite, on se déplace au Colorado le 22 juin. Et on revient à Montréal le 29 juin contre Philadelphie. Vous vous demandez probablement pourquoi il y a autant de matchs du CF Montréal là, à domicile ces temps-ci. C'est parce que le CF a commencé ses 6 premiers matchs à l'extérieur du Stade Saputo. Puisqu'on le sait très bien, ici, la MLS, ça commence en février. Et ici, en février, puis même en mars, la température, souvent, n'est pas idéal pour jouer au ballon. Donc voilà. Maintenant, niveau classement, qu'est-ce que ça donne pour le club en bleu et noir? Eh bien, ça donne que dans l'Est, le CF Montréal, avec cette victoire, n'est toujours pas dans un poste qui les qualifie pour les séries. Mais ils sont vraiment pas loin, là, parce qu'on va vous donner le classement tout de suite. Donc, qu'est-ce que ça donne? Premier dans l'Est, Miami, qui ont fait d'ailleurs match nul 3-3 à domicile contre Saint-Louis. Cincinnati, deuxième. Troisième, New York City. Quatrième, New York Red Bulls. Cinquième, Toronto. 24 points pour Toronto. Sixième, Columbus, 24 points. Septième, Charlotte, 22 points. Huitième et neuvième, qui sont les deux équipes qui vont faire le match de barrage pour se qualifier pour la dernière place dans les séries. Philadelphie, 20 points. Nashville, 19 points. 10e, DC United, 19 points. 11e, Orlando, 17. Et le CF Montréal, 12e avec 17 points en 16 matchs joués. 13e, Atlanta, 16e, juste un point derrière. 14e, Chicago, 15 points. Eux qui ont battu le Los Angeles Galaxy, qui était quand même un résultat surprenant. Et New England aussi, la dernière équipe dans l'Est qui a gagné et qui sont maintenant à 10 points. Donc le CF Montréal est à 2 points d'une place qualificative pour les séries éliminatoires. Également, pour parler de Columbus, ils ont malheureusement perdu la finale de la Ligue des champions de la CONCACAF. Ça, c'est notre zone ici. On a eu la finale du Real Madrid contre Dortmund que le Real Madrid a remporté. Eh bien, ici, samedi soir, eh bien, il y avait Columbus Crew qui se déplaçait du côté de Pachuca, une ville qui est très près de la ville de Mexico au Mexique, et qui ont malheureusement perdu 3-0. Et ils sont dirigés par Wilfried Nancy, qui est l'ancien entraîneur-chef du bleu et noir du CF Montréal. Donc voilà. En termes maintenant des meilleurs joueurs de la Ligue, eh bien, si je vous dis que pour le CF Montréal, les meilleurs buteurs, eh bien, c'est maintenant Ibrahim Sounoussi avec 5, Coccaro avec 3, Ariel Lasseca avec 3, Mathieu Chouanière avec 2 et Joseph Martinez avec 2, tout comme Jules Anthony Vilsain. Donc, on marque quand même beaucoup de buts côté CF Montréal. Et ce qui est intéressant, là, c'est que sur les 5 buts d'Ibrahim Sounoussi, il n'y en a pas un qui est sur un penalty. Ce sont tous des buts dans le jeu. Alors que Coccaro, par exemple, lui, sur ses 3 buts, eh bien, il y en a 2 qui sont sur penalty. Dans l'Ouest, qu'est-ce que ça donne vite le classement? Salt Lake, premier, deuxième, Los Angeles FC, troisième, Minnesota, troisième, le Los Angeles Galaxy, cinquième, Vancouver, sixième, Austin, septième, Houston, huitième, Colorado, neuvième, Portland, dixième, Seattle, onzième, Saint-Louis, douzième, Dallas, 13e San Jose et 14e Kansas City. Donc Dallas, ça ne va pas très bien en MLS à l'heure actuelle, mais il faut quand même le mentionner. Les Stars de Dallas sont en finale de la Coupe Stanley et les Dallas Mavericks sont également en finale de la NBA. Donc beaucoup de choses à venir là, pour la ville de Dallas au Texas. Donc voilà, c'était le petit résumé de la semaine d'action dans la MLS et surtout pour le CF Montréal. On s'en va en musique et on revient après ceci. De retour au terrain sportif sur les zones de CSM et CFAQ. Sur les zones de CSM, tout les lundis matin, 10h30, midi, votre émission hebdomadaire de sport dans la belle région de Montréal qui parle de sport un peu moins mainstream comme on va le faire dans les prochaines minutes là, avec l'équipe nationale canadienne féminine. Et également, bien, c'est en rediffusion tous les lundis soirs 20h, 21h30 sur les ondes de CFAQ, le 88,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Wissam Bensta en onde avec vous pour encore quelques minutes. Donc, on vient d'entendre 3 chansons back-à-back. Donc, avant de redescendre de Lucille et Marco Emma, N. Nao avec sa chanson Miroir et également notre ami là, Ken Lo avec la chanson Ça fait mal, feat Micro. Ça, c'est un artiste qui était du côté de l'Alliance de Montréal jeudi dernier, pour le spectacle de la mi-temps. Et puis j'ai bien aimé sa musique. Puis c'est un artiste local qui ne fait pas des milliards de vues. Donc pourquoi ne pas le mettre sur les ondes de CSM et de CFAQ? Maintenant, on va parler de soccer féminin, puisqu'il y avait un match au Stade Saputo samedi, non pas à 19h30 comme à l'habitude lorsque le CF Montréal joue, mais bel et bien samedi à 14h, donc en direct du Stade Saputo. Ça fait plusieurs fois que je le mentionne dans cette émission-là, mais bon, je suis souvent au Stade Saputo, et même quand c'est pas le CF Montréal, mais c'est l'équipe canadienne féminine. Également, il y a des événements qui se passent côté Stade Saputo. Donc, on était là. Et c'était un match contre le Mexique. Un match contre le Mexique est quand même un adversaire prenable pour les Canadiennes. Mais le Mexique, ça n'est pas non plus la pire des équipes de la Ligue, là. Surtout sur le continent américain. Et quand on regarde ce qui s'est passé, eh bien, le Canada l'a emporté 2-0 avec un but de Adriana Leon et également un but de Chloé Lacasse. Le tout en deuxième mi-temps, donc à la 86e et à la 73e minute. peu comme le match de Real Madrid là, contre Borussia Dortmund. Ça a été deux buts quand même assez tard en deuxième mi-temps qui ont permis à l'équipe de gagner, en ce cas-ci à l'équipe canadienne féminine de gagner. Ça a été quand même un match plus disputé que je ne l'aurais pensé, puisque le Mexique a bien joué en première mi-temps. Ils se sont créés beaucoup d'occasions, notamment une de la tête, mais la tête a été non cadrée. C'est sorti là, en coup de pied de but. Et il y a également, il faut le mentionner, là, Kenty Robles, la numéro 2, qui joue nul autre que du côté du Real Madrid. Donc, c'est pas rien là, pour la latérale droite, la numéro 2, qui est âgée de 33 ans. Également, dans cette équipe mexicaine, beaucoup de joueuses joue dans la Ligue mexicaine, qui est une des meilleures ligues au monde en termes de soccer féminin. Bien, on le sait, là, nos joueuses jouent dans des grands clubs, certains européens, d'autres américains. C'est une équipe qui n'est pas à prendre à la légère. C'est d'ailleurs l'équipe championne olympique du monde des Jeux olympiques 2020 qui se déroulait du côté de Tokyo. Et parmi les joueuses qu'on a, on a des joueurs qui jouent à Chelsea comme Ashley Lawrence, Buchanan également qui joue à Chelsea, Zadorski qui joue à West Ham, on a Vanessa Gill qui joue du côté de Lyon, Julia Grosso qui joue du côté de la Juventus. Et on a d'autres joueuses comme Chloé Lacasse qui joue du côté d'Arsenal ou bien Kansas City Current comme Nichelle Prince. Donc ça fait plusieurs joueuses là, qui jouent dans des grands clubs européens ou américains. Et également, il faut le mentionner, la légende, la joueuse Christine Sinclair, qui est aujourd'hui âgée de 40 ans, a pris sa retraite récemment. Elle avait tout simplement marqué 190 buts en 331 matchs. Et donc, c'est de loin la meilleure buteuse de l'histoire du Canada féminin. Et comme elle a pris sa retraite, évidemment, elle n'est plus disponible. Et quant à notre entraîneur-chef, eh bien, son nom, c'est Bev Priestman. Elle vient de Consett en Angleterre, mais elle a passé l'essentiel de sa carrière sur le sol canadien. 2013 à 2016, le Canada des moins de 17 ans, elle les a coachés. Les moins de 20 ans, 2007-2018. Elle a fait un retour en Angleterre comme assistante entraîneur entre 2018 et 2020 du côté de l'Angleterre. Et contre... et de retour au Canada depuis 2020. Et donc, c'est une personne qui est connue dans le monde du soccer. Puis, elle est d'ailleurs mariée à une joueuse qui joue du côté de la Nouvelle-Zélande, qui vient de la Nouvelle-Zélande. Elle s'appelle Emma Humphries. Donc, elle est vraiment dédiée à 100% là, dans le monde du soccer. Puis, elle fait un bon travail quand même avec le Canada. Il faut le mentionner. Les Canadiennes qui sont qualifiées pour les Jeux olympiques de Paris qui vont se passer dans quelques semaines. Là, ça va commencer durant l'été. Et on va en parler justement de ce tournoi-là parce que Canada est dans le groupe A. Il y a trois groupes pour le soccer féminin. Donc, c'est 12 équipes. Donc, les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés. Et les deux meilleurs troisièmes des trois groupes sont qualifiés. Donc, pour être éliminé en phase de groupe pour le tournoi olympique, il faut soit terminer dernier ou terminer le pire troisième des trois groupes. Le groupe A, avec le Canada, elles joueront contre la France, contre la Colombie et contre la Nouvelle-Zélande. Ça, c'est le groupe A. Le groupe B, l'Allemagne, les États-Unis, la Zambie et l'Australie, quand même un groupe très relevé. Et le groupe C, l'Espagne, le Japon, le Nigeria et le Brésil. À faire remarquer, bien sûr, que les Pays-Bas ne sont pas là. La Norvège, elles ne sont pas là. Et ce sont deux très grosses équipes au niveau du soccer féminin qui sont absentes des Jeux olympiques puisqu'elles n'ont pas pu se qualifier. Si ça avait été une Coupe du monde, elles auraient probablement été du tournoi. Mais il n'en est rien à l'heure actuelle. Et pour revenir sur le Canada, bien, c'est un programme double. Du côté là, du stade Saputo, samedi le 1er juin. Le prochain match, ça se passe du côté de Toronto. Et encore une fois, le Canada va recevoir le Mexique à 7h30 en direct du BMO Field. Si vous êtes du côté Toronto, dans la plus grande ville ontarienne, bien, je vous recommande d'aller voir ce match-là. Ça se passe du côté du BMO Field, le même stade où joue le Toronto FC. Après ça, eh bien, ça va être les Jeux olympiques tout simplement. Le 25 juillet, le Canada va commencer à 11h le matin, heure de Montréal, contre la Nouvelle-Zélande. Ensuite, ça sera le 28 juillet à 15h contre la France et le 31 juillet à 15h contre la Colombie. Donc, des équipes quand même de plusieurs continents. Le continent américain, on a le continent là, non loin de l'Australie avec la Nouvelle-Zélande. Avant, on appelait ça l'Océanie. Je ne sais pas si aujourd'hui on appelle encore ça l'Océanie ou on appelle ça le continent australien. Bref, le continent européen avec la France et le continent de l'Amérique du Sud avec Colombia. Donc voilà, c'est une petite parenthèse pour parler de soccer féminin. Et il y avait une belle foule au Stade Saputo. Là, on était dans les 15 000 spectateurs, ce qui est quand même bien. Un stade à pleine capacité au Stade Saputo, c'est 19 000 environ. Donc on était seulement à 4 000 spectateurs de la pleine capacité au Stade Saputo. Mais il faut le dire également, c'était un samedi à 2h. C'est vrai que l'heure était bonne, mais également il y avait la finale de la Ligue des champions en même temps. Et donc, peut-être que certaines personnes ont décidé de tout simplement rester à la maison ou d'aller dans un bar pour regarder le match le plus important au monde en termes de club, puisqu'on le sait, c'est la finale de la Ligue des champions européenne. Donc, voilà. Maintenant, on y va en musique et on revient avec le mot de la fin. Retour sur les ondes de CSM et de CFAQ. Vous êtes en train d'écouter l'émission hebdomadaire sportive Le Terrain Sportif avec nul autre que votre animateur Wissem Bensta. Donc on vient d'entendre deux chansons francophones cette fois-ci. C'était Nostalgie de Marat Tremblay ainsi que J'arrive pas à croire de Fire and Smoke. Deux chansons francophones au contenu canadien, bien entendu, ou québécois, c'est selon. Donc maintenant, on va terminer l'émission. On va parler là, de l'Alliance de Montréal. On va en reparler. On en parlait au début. Là, il y a un autre match qui se passait hier, le 2 juin. Un coup d'envoi à 16h du côté de l'Auditorium de Verdun. Et cette fois-ci, l'Alliance de Montréal l'a emporté 95 à 67. Ça a été une domination totale de l'équipe avec le logo au symbole d'un loup. Et la foule était présente, bien que comparé à l'année dernière, là, on dirait qu'il y a un peu moins de gens qui assistent au match. Il y avait beaucoup de gradins qui étaient dégarnis, surtout en arrière des baskets. Bon, on sait que ce sont les endroits les moins privilégiés, donc peut-être que des gens ont bougé, mais ça reste que l'Auditorium de Verdun n'a pas été plein. Et la première journée, bon, je me disais que c'était un match jeudi à 20h, mais là, c'était dimanche à 16h avec un plein soleil, il faisait beau. Il n'y avait pas de raison pour que les gens ne puissent pas aller à l'Auditorium, puis c'était pas rempli du tout, là. Et donc, premier quart, 23-21 pour Montréal. Deuxième quart, 21-20 pour Montréal. Troisième quart, 30-19 pour Montréal. Et quatrième quart, 21-17 pour Montréal. D'ailleurs, l'entraîneur-chef Ryan Thorne, je lui posais la question en conférence de presse, puis il a vraiment confirmé là, que c'est important de rentrer de la mi-temps et puis surtout de faire un bon travail et de ne pas donner l'avance à l'équipe. Comme ça s'était fait tous les matchs durant cette saison, l'Alliance n'avait remporté aucun troisième quart en trois matchs. Et là, pour le quatrième match, eh bien, de quelle façon l'ont-ils fait avec 30 points marqués contre 19? Et pour revenir à la foule, eh bien, il y avait 2763 spectateurs aux côtés de l'Auditorium de Verdun, à l'intérieur plutôt de l'Auditorium de Verdun. En termes de performance, eh bien, on va parler tout simplement avec les temps de jeu des joueurs en question, des athlètes. Eh bien, Chris Smith, c'est 30 minutes 23. Ahmed Hill, 29 minutes 2. 33 minutes 9 secondes pour Alain Louis, qui est le capitaine de cette équipe avec Ahmed Hill. 21 minutes 38 secondes pour Shaquille Dorsun. Maxime Boursicot, lui, 16 minutes. Guillaume Payen-Boucard, 23. Ismaël Diouf, là, la légende de l'Université de Laval du Rouge et Or qui a remporté le titre cette année avec Canadien, avec l'équipe de Québec, n'a pas joué. 4 minutes pour Elijah Ifeji qui s'est fait expulser malheureusement là, lors du deuxième quart, si je ne m'abuse. 14 minutes pour Bahaïd Haïdara et 26 minutes pour Jalen Edwards. En termes de pointeurs, eh bien 23 pour Chris Smith, Ahmed Hill en a 19, également Jalen Edwards en a 17, 11 pour Alain Louis et 7 pour Payen Boucard et Dorsun 6 et Boursicot 5. Chez les perdants de la soirée, les Brampton Honey Badgers de Hamilton, d'ailleurs équipe que l'Alliance de Montréal n'avait jamais battue dans sa jeune histoire dans la CEBL. La Canadian Elite Basketball League, je le répète tout le temps. Et bien de ce côté-là, en termes de pointeurs, bien Shamiel Stevenson en a eu 24, Zane Waterman en a eu 28, 3 pour Baker, 14 pour Cook. Et c'est à peu près ça, les autres, là, c'est soit des 1 point ou des 2 points. On a parlé avec certains joueurs là, en entrevue d'après-match, notamment Chris Smith. Il a reçu beaucoup de commentaires positifs de la part des médias, puis également des questions. En fait, des questions avec des commentaires positifs pour commencer. Mais il a dit qu'il n'était quand même pas 100% satisfait de sa performance parce qu'il a quand même eu 4 retournements, 4 turnovers. Alain Louis en a eu 5, mais ça reste que quand même la performance, elle a été exceptionnelle des joueurs de l'Alliance de Montréal. Et on les félicite parce qu'on sait que cette saison, le championnat canadien va être du côté de l'Auditorium de Verdun et on doit en profiter pour peut-être, si on ne gagne pas un titre, au moins faire bonne figure lors de la demi-finale qu'on va jouer à domicile. Au classement de l'Est, qu'est-ce que ça donne dans cette ligue de la CBL qui est composée de 10 équipes? Classement de l'Est, Scarborough Shooting Stars, pardon, en 4 matchs, c'est 2 victoires, 2 défaites. Brampton Honey Badgers, 2 victoires, 2 défaites. Niagara River Lions, 1 victoire, 2 défaites. L'Alliance de Montréal, 1 victoire, 3 défaites. Et les Ottawa Blackjacks, aucune victoire et 3 défaites. Conférence de l'Ouest, là on se rend compte que les équipes ont une fiche bien plus positive que l'Alliance de Montréal, parce que non seulement de l'Alliance de Montréal, mais que de la Conférence de l'Est. Parce qu'à l'heure actuelle, dans l'Est, il n'y a aucune équipe en haut de 500. On a 2 équipes qui ont perdu la moitié de leurs matchs. Aucune équipe a gagné plus de matchs qu'ils n'en ont perdu. Et dans l'Ouest, c'est tout le contraire. Là, on a seulement une équipe qui a une fiche négative ou à 500. Eh bien, c'est le Calgary Surge, 5e et dernier, avec aucune victoire et 3 défaites. Les premiers, Edmonton Stingers, 3 matchs joués, 3 victoires. Saskatchewan Rattlers, 3 matchs joués, 3 victoires. Vancouver Bandits, 4 matchs joués, 3 victoires, 1 défaite. Et Winnipeg Sea Bears, 3 matchs joués, 2 victoires, 1 défaite. Et quand on regarde le calendrier de l'Alliance de Montréal, on se rend compte qu'ils ont joué contre Vancouver, contre Saskatchewan et contre Edmonton. C'était leurs 3 matchs avant de jouer celui-ci cet après-midi du côté, en fait hier après-midi, là, parce que c'est un peu préenregistré côté Auditorium de Verdun. Et Edmonton Stingers, l'Alliance de Montréal les a presque battus. Donc il y a beaucoup d'espoir envers cette équipe de l'Alliance de Montréal quand on regarde le calendrier, quand on regarde certaines des défaites, quand on regarde la performance hier soir contre les Brampton Honey Badgers, avec une victoire chancelante, une victoire claire et nette. Également, concernant le coach Derek Alston Sr., eh bien, il sera de retour, lui qui était là l'année dernière. Il était au Mexique pour les séries éliminatoires avec son club de Los Mochis, qui est une équipe dans le nord du Mexique. Eh bien là, il reprendra son poste lundi et il pourra renouer avec Alain Louis, avec Elijah Ifeji et avec Ahmed Hill, qui d'ailleurs, il a coaché la saison dernière. Et donc, c'était le dernier match de Ryan Thorne, l'entraîneur qui était là intérimaire là, pour remplacer en attendant que Derek Alston Sr. Vienne. Et il était très, très bon en conférence de presse. Et il a tenu à nous remercier. On va l'écouter d'ailleurs dans quelques instants. Là. Ryan Thorne, c'est l'entraîneur de l'Université de McGill au basketball. Il a fait une bonne job pour le temps qu'il a été là, puisqu'on le sait, là, c'est pas la NBA, la CBL. Il n'y a pas un camp d'entraînement de 1 mois à 2 mois. Là. C'est direct, tu arrives, quelques entraînements, puis tu joues. Voilà, donc il n'a pas eu le temps de préparer non plus une saison comme on peut le faire là, dans les grosses équipes professionnelles du basketball un peu partout dans le monde. Et on le remercie quand même du côté de l'Alliance de Montréal. Et moi, comme média, je le remercie également puisqu'il a fait du bon travail. Il était sympathique en entrevue. Il a répondu aux questions, s'est assuré là, même de serrer la main avec certains journalistes. Et donc, j'ai beaucoup de respect pour cet homme qui se nomme Ryan Thorne. Et on va l'écouter tout de suite en entrevue d'après-match. C'était hier, l'entrevue d'après-match là, contre les Honey Badgers de Hamilton.
And it's your last game today as a coach of the Montreal Alliance. What will you remember of your experience as a coach here?
I think I got to learn a lot of different things about dealing with this environment. I think the organization supported me well, gave me all the tools to succeed, and then the guys were bought in, but it was just putting everything together. And so that started to come. And I believe they're in a good place to go forward. I said yesterday, Thursday, you either win or you learn. I think as a group, we learned some things. today we got a win, so hopefully that will continue.
Thank you.
Voilà, donc c'était le coach Ryan Thorne de l'Alliance de Montréal, lui qui aujourd'hui bien, en fait a quitté l'institution de l'Alliance de Montréal puisque le coach en chef Derek Alston Sr. est de retour. He is back du Mexique, de Los Mochis, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et soit dit en passant, les Honey Badgers, ça n'est plus là, de Hamilton, c'est de Brampton en Ontario, donc c'est pas très loin de Hamilton, mais le fait est que ça n'est plus dans la ville de Hamilton, la même ville d'ailleurs que Forge FC, qui a causé bien des ennuis au CF Montréal. Voilà, donc on a presque terminé pour cette émission aujourd'hui, l'édition du 3 juin 2024. Quelques actualités dans le monde du sport en général. Tout d'abord, les Oilers de Edmonton ont défait les Stars de Dallas hier soir par la marque de 2-1, avec des buts de Zach Hyman et Connor McDavid. Connor McDavid et Evan Bouchard ont tous les deux 2 points dans la victoire. Ça se passait du côté d'Edmonton. Et donc, la finale de la Coupe Stanley sera entre les Oilers d'Edmonton et les Panthers de la Floride. Et peut-être une occasion pour notre ami Corey Perry de gagner une deuxième Coupe Stanley, puisqu'il l'a gagné en 2007 avec les Ducks d'Anaheim. Mais il a perdu là, 3 finales de Coupe Stanley dans les dernières années avec Tampa Bay, Dallas et bien sûr avec le Canadien de Montréal contre Tampa Bay. Donc voilà, ça c'est pour actualité NHL. Également, la Coupe Memorial, le Spirit de Saginaw a défait les London Knights qui sont coachés là, par Dale Hunter. Et donc, ils sont champions de la Coupe Memorial. Le Spirit de Saginaw, d'ailleurs, c'est une équipe qui fait partie, là, qui joue dans la Ligue de la Ontario Hockey League, mais qui joue du côté du Michigan, puisqu'on sait, là, le Michigan et certaines parties de l'Ontario, c'est pas très loin. Et donc, eh bien, ils remportent la Coupe Memorial, eux qui ont gagné tous leurs matchs de ce tournoi-là, sauf une défaite le 29 mai contre London par la marque de 4-2. Donc, on les félicite, c'est leur premier titre, bien entendu, depuis qu'ils ont déménagé dans le pays des États-Unis d'Amérique. Également, Saint-Étienne va monter en Ligue 1 puisqu'ils ont fait match nul avec Metz 2-2. Et au match aller, ils l'avaient emporté 2-1. Ça s'est joué du côté de la prolongation. À noter aussi, là, petite défaite pour notre ami Dimitri Payet qui joue au Brésil maintenant du côté de Vasco da Gama. Eh bien, ils ont perdu 6-1 à domicile contre leur rival de Rio de Janeiro, j'ai nommé Flamengo. Également, Portimonense, ça c'est une équipe de l'Algarve, donc du sud du Portugal. Un autre endroit d'ailleurs dans le monde qui ont des belles plages et qui n'auront plus d'équipe de première division, comme c'était le cas également à Cancun, à Acapulco, à Puerto Vallarta, maintenant du côté de l'Algarve. On peut rajouter à ça certaines équipes des îles Canaries, bien entendu. On peut rajouter Malaga, donc voilà, des villes côtières avec des belles plages. Beaucoup d'entre elles n'ont pas d'équipe de soccer en première division, donc je voulais juste le mentionner. Voilà, donc c'est pas mal ça. Atlanta perd contre Charlotte 3-2 dans la MLS. Et nos amis italiens de Venise battent Cremonense au match retour. Le match aller s'était soldé par le score de 0-0. Au match retour, ils l'ont emporté 1-0 avec un but de Christian Gitcher. Ça s'est marqué à la 24e minute. Donc l'équipe de Venise passe de la 2e division italienne, la Serie B, à la Serie A, qui est la meilleure division italienne. Donc félicitations à eux. Ça, c'est une ville d'ailleurs très touristique maintenant qui va retrouver la plus haute division italienne possible. Également, chez nos amis de la NBA, je tiens à mentionner, avant de parler de la NBA, là, que le Real Madrid a battu le FC Barcelone, non pas au soccer, mais en match contre le FC Barcelone au basketball de la Ligue espagnole. D'ailleurs, la Ligue espagnole s'est considérée comme beaucoup comme étant faisant partie là, du top 5, voire top 3 mondial, évidemment, NBA étant la première. Mais la Ligue espagnole de basketball a beaucoup de talent. Ils l'ont remporté en 3 matchs, un 3-5, 87-78, 104-98 et 95-92 contre le club catalan de Barcelone. Et l'autre demi-finale, eh bien, c'est pas encore fini. C'est Murcia contre Unicaja. Et à l'heure actuelle, c'est Murcia, une ville du sud-est de l'Espagne, une région du sud-est de l'Espagne, pas très loin de l'Andalousie d'ailleurs, qui mène 2-1 cette série-là. Et on va avoir la vraie, en fait, la Ligue de la NBA qui est la meilleure division de basketball au monde, eh bien, on va avoir le premier match des séries éliminatoires. Ça va commencer tout ça, là, jeudi, à 20h30, Mavericks contre Celtics de Boston. Donc, c'est Dallas contre Boston qui va s'affronter. Le premier match passe du côté de Boston. Boston qui a toujours une très bonne équipe côté basketball américain. Et sinon, ben, des petits classiques de milieu de semaine pour ceux qui s'intéressent. Là. Lundi, on a Beşiktaş contre Fenerbahçe. Et mercredi, du côté de la Grèce, on a Panathinaikos Olympiakos qui sont là les deux équipes qui se détestent le plus en Grèce et ils vont nous offrir un bon match de séries éliminatoires dans la Stoichkman Basketball League de la Grèce. Voilà, donc c'est ce qui me fait à cette émission du 3 juin 2024. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était Wissem Bensta au micro pour CSM et CFAC, l'émission Le Terrain Sportif. Je vous souhaite une excellente semaine et bougez pas, restez sur les ondes de CSM et de CFAC. Au revoir et bonne semaine.